Session de théologie par le Père Philippe à Saint-Jodard, le 26 août 1991.
Petite note, une seconde, je ne m'arrête pas longtemps. Vous avez raison de poser vos questions. Ce matin, vous avez fait la distinction philosophie-idéologie. Dans la lecture de ce midi, le Saint-Père dit que le manque d'idéologie aujourd'hui est source de déprime, etc. pour les jeunes. Oui, le Saint-Père emploie de temps en temps des mots comme ça, couramment, sans préciser. Le Saint-Père serait tout à fait d'accord qu'une philosophie réaliste n'est pas une idéologie, parce qu'elle conduit à une sagesse. Alors, si vous voulez, on peut distinguer diverses sortes d'idéologies, moi je veux bien. Mais en réalité, qui dit idéologie, dit une philosophie qui commence par les idées, et non pas par l'expérience et la réalité. L'idéologie est toujours un peu idéaliste. Alors, elle peut momentanément vous exalter, mais elle ne fait pas découvrir la vraie finalité de l'homme. Seule une philosophie réaliste, à partir de l'expérience, à partir du jugement d'existence, peut seule nous faire découvrir la finalité de l'homme. L'homme, parce qu'il est esprit, a une fin qui est la découverte d'un être qui le dépasse, qui est son créateur. Et il peut aussi finaliser sa vie par l'amour qu'il a à l'égard d'un autre homme, d'une autre personne humaine, homme ou femme. Vous voyez, la finalité se découvre à l'intérieur de l'amour. Et l'amour n'est pas une idéologie. Peut-être c'est comme ça que vous le comprenez le mieux. Il n'y a pas d'idéologie de l'amour. L'amour est une expérience intime, personnelle, que nous faisons au plus intime de nous-mêmes, et qui nous met dans cette attitude de dépassement par rapport à nous. Et on atteint une personne comme notre bien. Qu'il s'agisse de la personne humaine ou qu'il s'agisse de Dieu, c'est une personne qui est notre bien. Tandis que l'idéologie réduit la personne à une idée. Les idéologies, c'est terrible. C'est terrible parce que ça tue l'homme. Et c'est toujours un orgueil latent d'une intelligence qui veut dépasser l'amour. Puisqu'on parlait de l'orgueil ce soir, l'orgueil, c'est toujours l'intelligence qui ne veut pas être dépassée par l'amour. L'intelligence doit être au service de l'amour. Toute véritable intelligence, pas la raison. C'est la différence entre l'intelligence et la raison scientifique. La science est au niveau de la raison, pas de l'intelligence. C'est terrible de dire ça, je sais bien, mais il faut le dire. Parce que l'intelligence est au niveau de la sagesse. Et l'intelligence est contemplative. Tandis que les sciences sont au niveau des lois. lois sont rationnelles. Donc il ne faut pas confondre intelligence et raison. C'est une distinction qu'Aristote a faite, que saint Thomas a repris, qui permet de situer le niveau des sciences et le niveau de la sagesse. La sagesse est un regard contemplatif sur Dieu. Dieu, on ne peut que le contempler. On ne peut pas l'analyser. Et la science analyse. Toute science analyse. Il aboutit aux lois et aux théories. Tandis que la sagesse est contemplative. Saint Thomas a cette affirmation tellement belle. La sagesse habitus contemplativus. Habitus, c'est-à-dire la qualité qui nous dispose à la contemplation. La sagesse nous conduit à la contemplation. Et ça, c'est le dépassement. Et on ne contemple qu'une personne. On ne contemple pas une idée. Contemple une réalité qui est notre bien. Oui, c'est important, j'y tiens beaucoup à la distinction philosophie-idéologie pour sauver la philosophie. J'ai horreur des idéologies parce que je vois qu'elles tuent l'homme. Tandis que la philosophie est au service de l'homme. Elle peut se faire de temps en temps dans le langage du Saint-Père. C'est normal. On est ici en théologie, on précise. Dans le langage courant, on vous dira quelle belle idéologie. Enfin, oui, oui, c'est pas une idéologie. Le Saint-Père n'a pas d'idéologie. Au début, comme je connaissais un peu le Saint-Père, je lui ai dit, très Saint-Père, je crois. C'était un petit déjeuner. Je crois que votre vision philosophique, que je veux comprendre, c'est une anthropologie ouverte à une métaphysique. Il a gardé le silence pendant quelques instants. Il m'a dit, Père, merci de me dire ça. Il a dit ça de façon tellement humble, tellement belle, ça m'a profondément ému. Parce qu'il m'a dit un jour, j'ai pas eu de professeur de métaphysique. Et je le sens maintenant. Parce que c'est tellement important de saisir ce qu'est l'intelligence dans ce qu'elle a de plus profond. Dites-vous bien que vous êtes tous intelligents. Comme ça, vous retiendrez cette petite session. Vous êtes tous intelligents. Je me souviens, nous avons le bon père Mandonné qui nous faisait ce qu'on appelait la goutte de lait. Quand on est novice, quand on commence la philosophie, on n'y comprend rien. C'est vrai, on n'y comprend rien. C'est un autre monde. Alors on avait le père Mandonné qui nous donnait la goutte de lait. Il avait 75 ans. Il nous racontait des histoires. Je me souviens de quelque chose. C'est qu'un jour il nous a dit, mes petits frères, vous êtes tous intelligents. Oui, c'est pour ça que j'ai retenu. Vous êtes tous intelligents. Vous allez avoir des professeurs qui auront une forme d'intelligence tout à fait différente de la vôtre. Ils diront, j'ai un imbécile dans ma classe. Et alors des professeurs qui ont la même forme d'intelligence que vous, ils diront, j'ai un génie. Vous inquiétez pas. Comprenez que l'intelligence est analogique, qu'elle a des manières différentes. Elle se développe d'une manière affective. elle se développe d'une manière artistique. Elle se développe d'une façon métaphysique. Elle se développe d'une façon prudentielle. Et c'est très vrai, ça. Puis il y a la raison. Il faut connaître la différence entre les deux. La raison est au niveau des relations. Et elle ne saisit jamais un principe ou une cause. Elle ne contemple pas. Elle raisonne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tandis que l'intelligence contemple. Et elle est faite pour contempler. À l'image de Dieu. Et à sa ressemblance. Alors, il s'agit de distinguer, pas d'opposer, pas de séparer, mais de distinguer. C'est très important d'avoir un peu de lucidité dans son intelligence. Savoir où on en est, qu'est-ce qu'on dit. Surtout aujourd'hui, autrement on se laisse séduire. Et les séductions, ça dure pas très longtemps. Alors, je continue parce que c'est des questions qui sont directement pour prolonger ce que nous avons dit tout à l'heure. Pouvez-vous préciser l'ordre de la théologie en situant davantage la théologie des tentations? Pourquoi n'y a-t-il pas de théologie scientifique des tentations? Nous y reviendrons sur la question de la science et de la philosophie et de la théologie. Alors là, je vous demanderai de me poser des questions très précises, si on veut discuter la question. La théologie, je vous ai dit, elle vient de ma foi. C'est le croyant qui veut être intelligent pour Dieu. Fides, querens, intellectus. C'est la grande affirmation de saint Anselme qui est restée pendant tout le Moyen-Âge. Fides, la foi cherchant l'intelligence du mystère de Dieu. Fides, ça c'est un petit adage qu'il faut connaître hein, si on veut quand même faire un peu de théologie. La foi. Querens, cherchant. Intellectum. Donc la foi, cherchant l'intelligence. Donc la foi qui porte sur Dieu se révélant. Je suis directement en contact avec Dieu qui se révèle. La foi qui me donne ce contact par la parole de Dieu avec le mystère de Dieu. La foi cherchant l'intelligence. Pourquoi? Parce que la foi est reçue dans mon intelligence. Saint Thomas ne dit pas cherchant la raison. Non. Cherchant l'intelligence, c'est-à-dire la contemplation. La foi cherchant l'intelligence. L'intelligence parfaite égale contemplation. Donc, et ceci, je dirais, à partir de saint Anselme, a été repris tout le temps, tout le temps. Oui, c'est un homme intelligent qui croit. Il veut mettre son intelligence au service de sa foi. Pour contempler Dieu. Pour mieux le connaître. La foi cherchant l'intelligence. Ça, je crois que c'est très important, parce que ça fait comprendre ce dynamisme interne intelligent ne peut jamais s'arrêter. Attends, j'ai compris. Mais non, il cherche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme celui qui contemple. Je ne possède pas la contemplation. Mais par moment, Dieu me donne une lumière. Par moment, il m'oriente vers lui. Alors, c'est cette attitude contemplative qui fait qu'on est tout entier tourné vers Dieu. Dieu présent au plus intime de moi-même. Dieu qui me dépasse complètement. Dieu qui est source de tout ce que je suis. Donc, une fois j'ai compris que la théologie, c'est la foi cherchant l'intelligence. Retenez au moins la petite formule. Et sachez que ça a commandé toute la recherche des pères de l'Église. Pendant, on peut dire, 15 siècles, même plus, mais des 18 siècles, la théologie, c'est la foi cherchant l'intelligence. Je cherche l'intelligence à partir de la parole de Dieu. Et donc, je peux la chercher dans des sens très différents. Alors, comme on dit, l'ordre de la théologie. Quand je vous ai montré ces diverses manières dont on voit le développement de l'intelligence, le développement des théologies, je peux dire que il y a d'une certaine manière, d'abord, le point de départ, théologie biblique, surtout aujourd'hui. On commence par la théologie biblique. La théologie biblique me conduit à la théologie scientifique. De saint Thomas. Et la théologie biblique me conduit à la théologie de l'Église, du vivant, qui elle aussi réclame la théologie scientifique. Et la théologie scientifique me conduit à la théologie mystique, qui est la fin. Alors il faudrait peut-être mettre comme ça, ça serait plus subjectif. La théologie scientifique, c'est l'axe. Il n'y a pas de vraie théologie sans théologie scientifique. C'est pour ça que le pape dit que Thomas d'Aquin, c'est le théologien de tous. La théologie scientifique, donc la théologie biblique conduit à la théologie scientifique. La théologie de l'Église conduit la théologie scientifique. Et la théologie scientifique demande de s'achever en théologie mystique. J'aime mieux ça que donner un ordre cartésien. Il n'y a pas d'ordre cartésien ici. C'est une sagesse. Toute la théologie est sagesse. Elle est sagesse dans la théologie biblique. Elle est sagesse dans la théologie du vivant. Elle est sagesse dans la théologie scientifique. Elle est sagesse ultime dans la théologie mystique. Qui regarde la personne, le je suis. Dieu est amour. Dieu est don. Dieu se donne. Je crois que là, nous pouvons bien saisir ça. Je n'insiste pas plus, parce que ça, on pourrait discuter 107 ans là-dessus. Je me souviens avoir écrit à un professeur du Saulgeois quand j'étais à Fribourg, là-dessus, parce que je cherchais. J'ai dû enseigner la théologie mystique à Fribourg. Et parmi mes étudiants, j'avais des hommes éminents qui sont devenus cardinaux. Paraski de Cracovie. Il était étudiant à Fribourg à ce moment-là. Et chaque fois que je le vois, il me rappelle ce vieux temps. J'ai dû enseigner la théologie mystique à Fribourg, tout en étant professeur de philo. Bon, je connaissais saint Thomas, c'était ce qu'on m'avait enseigné. Mais on n'avait jamais enseigné la théologie mystique. On n'avait jamais enseigné la théologie biblique. On m'avait jamais enseigné la théologie de l'Église. essayer de comprendre comment l'enseigner. Quelle différence a-t-il entre l'intelligence scientifique qui cherche l'intelligibilité de la parole de Dieu et l'intelligence mystique qui essaie de comprendre comment Dieu se donne personnellement. Dieu n'est pas seulement celui qui me parle, qui se révèle, il est celui qui se donne. Et il faut que je découvre ce qu'est ce don de Dieu. Et le don de Dieu se fait par Jésus, le don du Père. Et le don de Jésus se fait par l'Eucharistie. Pour nous qui sommes pèlerins, c'est quand même important de comprendre ce qu'est l'amour en Dieu et comment l'amour fait l'unité. Je suis un avec Jésus dans la mesure où je l'aime. Je suis un avec le Père dans la mesure où je l'aime. Et sa paternité est vécue à travers l'amour, comme la paternité du Christ, comme la maternité de Marie. C'est vécu dans l'amour. Et ça, c'est le propre de la théologie mystique. Essayez de préciser ça. Alors, je crois que ça, vous pouvez le retenir et y réfléchir beaucoup. Et si vous avez un cinquième aspect, vous me le direz. Je crois qu'il n'y en a que quatre. C'est très intéressant, du reste, parce que c'est toute la structure de la pensée théologique. Pouvons-nous découvrir l'ordre de la théologie mystique? Puisque je vous ai dit, le mystère des tentations ou le problème des tentations doit se voir à l'intérieur de la théologie mystique. Pourquoi? Parce que le problème des tentations n'est pas un problème de théologie scientifique. Et vous comprendrez tout de suite pourquoi. Qu'est-ce que c'est que la tentation? Tentare. Le mot latin a une signification un peu différente de la signification pour nous. C'est pour ça que beaucoup de gens se heurtent devant la traduction du Notre Père. Ne vous tentez pas. Pour saint Thomas, au Moyen Âge, saint Thomas dit que Dieu nous tente. Pourquoi? Tenter, c'est essayer de creuser le plus possible pour qu'on découvre les profondeurs de l'esprit humain. Saint Thomas dit ça dans le livre de Job, il le dit aussi dans le commentaire de Saint Jean. Je vous donnerai la référence exacte, parce que c'est intéressant. Tenter, éprouver. On tente pour éprouver. Et Dieu tente pour éprouver. Et le démon tente. Quand le démon tente, il tente non pas pour éprouver, mais pour détourner. Ça, on le verra, c'est facile à comprendre. Déviation. Alors on dévie. On fait un grand tournant énorme. Alors ça doit être si simple d'aller directement. Alors, tenter, dans les deux sens, éprouver, c'est une action extérieure par rapport à la foi. La foi est une épreuve, c'est vrai. C'est pas commode de croire, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Je crois que c'est plus difficile de croire dans cette fin du XXe siècle qu'au Moyen Âge, je crois. C'est pas commode de croire, c'est une épreuve. Dieu nous éprouve par la foi. Et Dieu veut nous éprouver par la foi. Et Dieu nous éprouve pour qu'on aille plus loin dans l'amour. C'est toujours par amour, c'est une sorte d'éducation de Dieu. Dieu nous éduque. Et veut nous éduquer. Donc il nous conduit vers quelque chose qui est meilleur. Parce que Et si vous ne nous éprouvez pas, vous savez, c'est très simple. Tous, on s'endormirait. Parce qu'on prendrait toujours ce qu'il y a de plus facile. Alors on s'endort. On serait des marmottes. Des marmottes. Oh, la vie est tellement dure. C'est tellement dur, la vie. Alors, je m'endors. Je m'enterre. Alors, la foi deviendrait marmotte de Dieu. Et c'est pas ça du tout, la foi. La foi conduit à l'espérance qui donne un grand élan d'amour en vue d'aimer toujours plus. Donc la foi nous réveille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un croyant ne peut pas dormir. Il ne peut pas s'endormir parce qu'il attend le retour du Christ. Il est lié à cette attente du retour du Christ. Il veut être là au retour du Christ. Il ne veut pas être une marmotte au retour du Christ, enfermé dans son terrier. Alors, tenter, c'est un acte extérieur d'une certaine manière à la foi. Ce n'est pas un principe de foi. Ça fait partie des luttes. Ça fait partie de toute ma manière particulière d'être. Ce n'est pas du tout ce qui constitue l'image de Dieu. L'image de Dieu implique capacité de connaître, capacité d'aimer et de dominer. C'est une question de fait, nous dirions, une question existentielle, la tentation. On attend que ça se termine. Parce que je suis tenté aujourd'hui, terriblement. T'es très tenté aujourd'hui, tenté de filer, quoi. Partir, si c'est ça, je tente. Toutes les portes sont ouvertes, on peut partir. Je laisserai un mot à la gueule, je dirais. C'est tout. On est tenté. Quand on fait une retraite, le soir du premier jour, on est tous tentés de prendre sa valise et de fichu le camp. Tous. Et le second jour encore plus. Attention demain. Je désamorce, oui. La tentation ne fait pas partie de la structure de notre être. Ni de Dieu. Donc c'est pas la théologie scientifique. Saint Thomas parle du péché, mais pas de la tentation. La tentation fait partie d'une manière particulière d'être. C'est pour ça que c'est lié à la psychologie. La psychologie est liée à une manière d'exister, à un comportement. C'est le pos, comme on dit en grec, le comment, et non pas du tout un principe et une cause. Je ne me définis pas par mes tentations. Le jour où je me définis par mes tentations, ça prouve que les tentations ont fait beaucoup de ravages. Il y a des gens qui ne vivent et qui ne sont heureux que quand ils sont tentés. Ça existe, psychologiquement parlant. Très bien, il y a des personnalités qui ne se développent que quand elles sont en bataille. Tout est calme, paisible. Telle personne arrive, oh, qu'est-ce qui va arriver ? Tout va être agité, et il faut la bataille. Et quand il y a la bataille, elles sont heureuses. Parce qu'elles croient faire la paix. Mais c'est elles qui ont suscité la bataille. Il y a des psychologies comme ça. Ça se connaît, tout le monde connaît ce genre de psychologie. J'avais une tante comme ça. Et dans ma jeunesse, c'est resté. Tout bougeait, tout valsait, quoi. Rien. Et s'il y avait quelque chose qui a dit, mais c'est idiot, c'est ça, ça. Mais enlevez ça. C'était l'ouragan, quoi. Des temps d'ouragan. Ça existe, ça. Donc, c'est une manière d'être d'un cyclone. C'est une manière d'être. C'est pas la réalité. Alors, c'est pour ça que ça ne peut être saisi que d'une manière existentielle. Or, la théologie mystique assume l'aspect existentiel. Parce que c'est la théologie de l'amour. Et l'existentiel n'est parfaitement lui-même que dans l'amour. On est en présence de l'existentiel, comme dit Heidegger. C'est-à-dire quelque chose qui devient essentiel à un être. Ma finalité, c'est essentiel. Joindre ma finalité, c'est aimer. Et c'est l'existentiel lié à la fin. Donc, c'est être finalisé. Un être finalisé. Il est parfait. Toute ma vie consiste à être finalisé. C'est-à-dire à aimer. Et plus j'aime, plus je réalise toute ma qualité, mon potentiel. Mais je ne me réalise que dans la lutte. C'est un fait. C'est un fait. Jésus aurait pu, comme rédempteur, me réhabiliter dans le paradis terrestre. S'il nous avait demandé conseil, on aurait dit ça. Retournez au paradis terrestre. Vous voyez, le baptême, avant et après. Alors vous verrez, le baptême, la tête du vieil homme, avec le baptême, au paradis terrestre. Un petit paradis terrestre qui circule. Toutes les conséquences du péché disparaissent, il n'y a plus rien du tout, plus rien du tout. Tu aurais pu faire ça. Il n'a pas fait. Il a voulu que toute notre vie soit une lutte. Dans le livre de Job, la vie humaine militia. C'est un service de lutte. Dans les béatitudes évangéliques, c'est une lutte. Et dans les luttes, il y a toujours des mauvais. La bonhomie de saint Thomas. Pour qu'il y ait des martyrs, il faut qu'il y ait des bourreaux. Bien évident. Or, l'Église vit le même mystère que le Christ. Selon toute la grande tradition de l'Église. Et donc, elle vit une vie de lutte. L'Église militante. Il faut donc saisir cette dimension des luttes dans lesquelles je me trouve. Or, ces luttes vont impliquer quelqu'un qui me tente, qui me séduit. Quelqu'un qui a, de fait, des complicités dans la cité, dans mon âme, les conséquences du péché. Conséquences du péché originel. Même si on ne l'accepte plus aujourd'hui, elles existent. Ça m'est bien égal que vous les niez. L'Église nous dit qu'il faut y croire. Conséquences du péché originel. C'est les complicités avec le démon qui me tente. Ce qui fait qu'il y a une lutte externe et une lutte interne. Il y a en moi deux hommes. Et on le sait très bien. Et plus on avance, plus on s'en aperçoit. On lutte, on lutte, on lutte, on lutte tout le temps. Ce mystère des luttes, internes et externes, nous sont donnés dans la théologie biblique. C'est bien évident. Nous sont donnés dans la théologie de l'Église. Sont donnés en théologie mystique. Alors je pourrais, avec vous, regarder tout l'Ancien Testament en voyant les luttes. Nous le ferons au début, puis je n'aurai qu'à continuer. regarder les luttes propres de l'Église et comprendre cette affirmation de notre pape quand il est venu la première fois à Paris, qu'il a réuni tous les évêques de France à huis clos. J'ai beaucoup regretté pas être là, mais je me suis précipité sur la documentation catholique quand elle a paru. Et j'ai lu ce que le Saint-Père a dit aux évêques. Je crois que pas beaucoup d'entre vous l'ont lu. Hein. Donc je peux dire ce qui est. Le Saint-Père dit à la fin, in coda venenum, hein. C'est toujours à la fin qu'on dit ce qu'il y a de plus fort. Le Saint-Père dit aux évêques, l'Église d'aujourd'hui vit une tentation comme elle ne l'a jamais vécue. Il n'en tient pas compte de ça. Absolument pas. Qu'est-ce qui en tient compte? Je l'ai pu répéter par personne. Mais je le répète souvent. Parce que si le pape l'a dit, c'est sous la motion de l'Esprit Saint. L'Église vit aujourd'hui une tentation comme elle n'a jamais vécue. C'est une méta-tentation. Là, on retrouve le philosophe. Ur tentation. C'est la tentation fondamentale, radicale. Et le Saint-Père explique, cette tentation, c'est que les hommes vont pouvoir se sauver par eux-mêmes. Il n'y a plus de place pour le Sauveur, pour le Christ, dans la culture moderne. C'est très fort. Les idéologies athées rejetant Dieu exalte l'homme. Et l'homme se fait Dieu. Et l'homme veut se sauver par lui-même. Il n'a plus besoin du secours du Christ. Voilà ce que le Saint-Père met. Vous voyez, si j'ai une théologie de la tentation, si je vois la place de la théologie de la tentation, quand le Saint-Père dit ça, ça fait tilt. Il dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui me frappe énormément, c'est qu'il n'y a pas eu de développement de la théologie de la tentation. Il n'y a pas eu. C'est très curieux, c'est un fait. Parce qu'il n'y a pas eu de développement. Je parle de notre Occident. Il n'y a pas eu de théologie mystique. Mais il n'y a pas eu de vraie théologie mystique. Et je crois que le rapprochement avec les orthodoxes réclame une théologie mystique. Toutes les expériences que j'ai avec eux, c'est très net. Quand on leur parle de la théologie mystique, quand on essaie de leur montrer ce que c'est que la théologie mystique, ils vous tapent sur le dos, ils me l'ont fait plusieurs fois, en me disant, vous êtes un véritable orthodoxe. Heureux, c'est ce qu'il y a de suprême. Parce que tout simplement, on leur montre que la théologie scientifique de saint Thomas est ouverte à la théologie mystique. Et que pour saint Thomas, la théologie scientifique, c'est un axe. Ce n'est pas toute la doctrine sacrée. Ce n'est pas toute la doctrine sacrée, donc la théologie. Il faut que la théologie s'achève en théologie mystique. Et c'est un fait que voulez-vous que la théologie mystique n'est pas du tout développée. Et beaucoup de théologiens théologiens du dogme disent avec mépris, ah, c'est de la spiritualité. Mais non, c'est de la théologie. Parce que pour eux, spiritualité, c'est l'aspect subjectif. Quand on est au niveau de l'amour, la subjectivité est transcendantale. Et elle nous fait découvrir ce qui détermine mon amour. Dans l'amour, la subjectivité est première. J'aime. Je ne peux pas aimer d'une façon abstraite. J'aime avec tout mon être, tout ce que je suis. J'aime. Et à l'intérieur de l'amour, il y a la précision de celui que j'aime. J'aime Pierre, j'aime Jean, j'aime Jacques, j'aime Monique. Et la précision de toutes les diverses manières de préciser à l'intérieur de la subjectivité de l'amour. Vous voyez, on est au-delà de cette distinction subjective-objective. Une marotte. Parce que les gens qui disent ça, ça pose ce qu'ils disent. Ils ont repris une conclusion critique et qui n'est pas philosophique. Satan ne le dit jamais. Jamais. C'est très nouveau. C'est logique ou critique. Alors, comprenons comment en théologie mystique, théologie de la personne, théologie de l'amour, Dieu est amour. Les gestes du Christ, tous les gestes du Christ. Or, parmi les gestes du Christ, Jésus a été tenté. Et trois tentations au désert. On les verra. Jésus a été tenté. Et dans ma vie, la tentation prend une très grande importance. Je sais bien, parce que je suis en lutte. Alors il faut comprendre qu'est-ce que c'est et pourquoi ces tentations, et leur signification. Et ce qui m'intéresse spécialement aujourd'hui, alors là, j'y reviendrai, c'est que par la théologie des tentations, je rejoins et j'assume la psychologie. La théologie scientifique de Saint Thomas assume la philosophie première. En théologie mystique, j'assume l'éthique, j'assume la philosophie de l'art. J'assume la psychologie. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que justement, le propre de la tentation, c'est me faire la tentation prise au sens fort, pas seulement l'épreuve. Quand le démon masticote, qu'il me pique, c'est me faire dévier. C'est me faire oublier ma finalité. Mais la tentation de la petite fille, hein, le pot de confiture. Toute la journée, elle pensera à son pot de confiture. Ça deviendra une idée dans sa tête. Hein. Elle va tout pousser pour se confiture. Alors elle attend le bon moment, parce qu'elle n'est pas bête. Quand sa mère est partie. Alors, le pot de confiture, il est dans l'armoire. Dès qu'elle entend un tout petit peu de bruit, immédiatement, elle remet le pot de confiture. Et ça continue, parce qu'elle n'a pas pris assez. Bon, le pot de confiture, il change. Ça prend des couleurs différentes, suivant les âges, suivant les moments. Mais vous voyez, c'est nous faire dévier de notre finalité et nous mettre dans notre conditionnement. Ah, vous voyez comme c'est intéressant d'avoir une psychologie chrétienne dans ma théologie mystique. Et ça éclaire des quantités de choses. Et je vois que cette théologie chrétienne des tentations, cette psychologie chrétienne des tentations, va me permettre de faire certaines distinctions dans l'ordre du comportement que la psychologie tout court ne fait pas et ne peut pas faire. Je crois que la psychologie qui demande d'être existentialiste, qui me fait comprendre le comment de mon être, de ma personne humaine, la psychologie est toujours liée à la personne. Toujours. C'est pour ça que le psychologue voudra au terme dire ce qu'est la personne humaine. Cette chose très très curieuse, c'est qu'elle regarde toujours le comportement, le conditionnement. Alors, nous le verrons plus en détail, mais simplement ce soir, pour que vous compreniez avec un fil à plomb. Je regarde la tentation que nous verrons demain. La première, il faut toujours saluer. Première tentation qui nous a joué un si mauvais tour. La tentation de notre grand-mère. C'est quand même quelque chose. Tentation d'Ève. Qu'est-ce que je vois? Je vois dans la tentation d'Ève, Ève, je ne sais pas très bien c'est qui. Je n'en sais rien du tout. On la nomme. D'où vient-elle? Relation avec Adam. On ne dit pas qu'Ève est fille de... Je ne sais pas de qui. Ève est fille de quoi? Ah, c'est jamais été dit. Ève, c'est comme Melchisédek. On ne sait pas d'où elle vient. Et Adam non plus. La différence, c'est qu'elle n'est pas reine. Adam non plus. Et puis il y a un troisième personnage. Symboliquement représenté par serpent. Je ne sais pas non plus très bien ce que c'est. Il faudra attendre longtemps l'Apocalypse pour que le serpent soit dévoilé. Bibliquement parlant. C'est l'Apocalypse qui dévoile l'antique serpent, qui est le dragon, qui est l'accusateur. C'est l'Apocalypse qui dévoile le serpent. Dans l'Ancien Testament, c'est pas très bien. C'est curieux tout ça, vous savez. Pourquoi le Saint-Esprit agit comme ça? Vous avez le serpent au point de départ et au terme de l'Écriture. Si je prends la Genèse, si je prends l'Apocalypse. Après, seconde faute. La bête est tapie. C'est l'expression qu'un. La jalousie. Alors je vois qu'il y a quelque chose d'intérieur qui n'existait pas chez Ève. Et en effet, quelqu'un mettait le serpent. Après tout, c'est symbolique, c'est très bien. Ève, Cain. Cain, il est relié à Ève. Il est comme un bon fils, il ressemble à sa mère. Il n'a pas pris le meilleur. Le serpent, il était très visible pour Ève. Ici, la bête est tapie à l'intérieur. Encore un langage très symbolique. Mais c'est quand même intéressant de voir première tentation, deuxième tentation. Puis alors, la troisième tentation. Il y a un ordre dans les tentations. Elles s'intériorisent de plus en plus. Pourquoi ? y a une complicité intérieure. De sorte que je vois que dans le chrétien, nous-mêmes, il y a trois dimensions. La grâce avec la foi. La nature humaine, conséquence du péché. Qui sont, écoutez bien, quasi naturelles. Au plan descriptif, donc au plan psychologique, toutes ces conséquences du péché sont naturelles. Parce que je suis né dans le péché. Je suis né avec une propension terrible vis-à-vis du bien sensible. Une propension terrible. Le lait maternel, c'est pour ça que le sevrage prend une importance telle à cause de la concupiscence du péché. C'est évident. Autrement, non. Le sevrage, extraordinaire dans la philosophie, dans la psychologie contemporaine. Et toutes les conséquences du péché sont quasi naturelles. Il y a quand même trois niveaux. Hein. La grâce, la nature et les conséquences du péché. Est-ce que le psychologue peut discerner ces trois niveaux ? Non. Il discerne tout simplement l'exercice de l'opération humaine. Telle opération humaine, dans telle circonstance, dans tel lieu, sous les motivations de telle chose, et ainsi de suite. Alors que, si je veux comprendre cet exercice, si j'ai affaire à un chrétien, c'est important. Un psychologue doit savoir s'il a affaire à un chrétien ou pas un chrétien. Il y a la grâce, il y a la nature, il y a les conséquences du péché. Et ceci est présent dans l'exercice de lutte. Je lutte contre le péché, contre cette tentation lancinante, le pot de confiture. Je lutte contre ça. Fatigué. J'arrête de lutter, je tombe. Les conséquences du péché l'ont emporté. Tant que je lutte, la grâce l'emporte. Et la nature est liée à la grâce ou liée aux conséquences du péché. Donc, vous voyez, ces trois niveaux, je crois ça capital en psychologie chrétienne, de distinguer ces trois niveaux qui expliqueraient des quantités de choses que le psychologue cherche, mais en vain, à comprendre. C'est dans ce sens-là que je dis qu'une vraie psychologie, elle doit être chrétienne, puisque je sais que tout homme est né dans le péché originel. On essaiera de voir ça progressivement. Mais c'est bien de vous le dire tout de suite. Que vous compreniez qu'on est en théologie mystique, qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que la tentation, qu'est-ce que c'est que la faute, qu'est-ce que c'est que l'épreuve, et qu'on découvre là une parenté entre cette théologie mystique et la psychologie.